vous m'en direz des nouvelles.
C'est le début de quelque chose.
Jean-François Cadet.
Toujours avec Bernard Werber qui publie son nouveau roman Troisième Humanité chez Albin Michel et qui est une star, il n'y a pas d'autre mot, en Corée du Sud, reportage Frédéric Ojardias.
Vous m'en direz des nouvelles !
Cet accueil triomphal digne d'une rockstar, c'est Bernard Werber en Corée du Sud qui entre dans un amphithéâtre plein à craquer de fans enthousiastes qui prennent des photos de leur idole avec leur téléphone portable. Car Bernard Werber, comme se prononce son nom en coréen, est une véritable vedette au pays du matin calme où il est sans conteste l'écrivain français le plus lu. En 92, un éditeur coréen emballé par les fourmis hypothèque sa maison pour en publier la traduction à grand renfort de publicité. Le succès est phénoménal. Depuis, chaque nouveau livre est un best-seller. Certains dépassent le million d'exemplaires vendus. Im Ji-young, 39 ans, secrétaire à Séoul, est une lectrice assidue. Elle a lu tous les livres de Bernard Werber et nous explique pourquoi.
D'abord, c'est un provocateur. Ses livres sont remplis d'idées insolentes et stimulantes. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'auteurs coréens qui aussi sont créatifs. Mais à l'époque où Bernard Werber a été publié pour la première fois ici, l'atmosphère sociale et le reste étaient très figés, coincés. Et son livre m'avait vraiment fait l'effet d'une claque derrière la tête. Un peu comme si on me faisait utiliser des zones de mon cerveau que je n'avais pas l'habitude de faire fonctionner. C'était amusant, donc. Dans ses livres, en général, on peut trouver différentes perspectives. Il fait partager les points de vue de plusieurs personnages. Et cela me donne l'impression de devenir chacun d'entre eux et de rentrer dans l'histoire. C'est vraiment bien. Même si dans ma vie, je ne peux pas faire ce qu'il décrit dans ses livres, je peux imaginer beaucoup de choses. Et c'est lui qui détient la clé de cet univers imaginaire. Ces livres qui, pour moi, sont les plus mémorables, ce sont Les Thanatonautes, L'Arbre des Possibles et Le Père de nos Pères.
Ce coup de foudre entre Bernard Werber et la Corée du Sud est réciproque. L'écrivain se rend régulièrement à Séoul pour y rencontrer ses lecteurs et il a même appris quelques mots de coréen.
안녕하세요. 감사합니다.
Il se plaît désormais à inclure des personnages coréens dans ses histoires et pour l'adaptation au cinéma de ses fourmis, envisage d'en réaliser une partie à Séoul. Sur les forums internet de ses fans, on va même jusqu'à s'échanger des rumeurs sur ses histoires de cœur et depuis quelques semaines, son visage tourne en boucle à la télévision dans une publicité pour une grande société de la finance. Bref, en Corée du Sud, de tous les écrivains français, c'est vraiment Bernard Werber le plus formidable.
Voilà, reportage de Frédéric Ojardias.
J'ai appris des trucs là, je ne savais pas qu'il y avait une publicité qui tournait.
Bon. Ah, vous n'aviez même pas donné votre accord.
Si, mais normalement ça devait être une toute petite chose là, je ne savais pas que ça allait prendre une telle importance.
Ouais. Ah bon, alors Bernard, je ne sais pas si je prononce bien, je crois qu'il faut rouler un peu plus les R.
En fait, ils ont un problème, c'est qu'ils ne prononcent ni les R, ni les B. Alors vu qu'il y a plein de B et de R dans mon nom, c'est la catastrophe. Quand ils m'appellent, ils me disent bah, je crois qu'ils répètent quatre fois la même syllabe.
Ouais. D'où vient cette passion entre vous et la Corée?
Ah, d'abord, moi je connaissais pas la Corée, j'aurais même pas pu la situer sur une map monde avant d'y aller. Bah, tout simplement, d'abord, c'est un pays qui est sorti d'une merde pas possible, c'est-à-dire d'une dictature dans les années 70, et c'est un pays neuf. Et c'est un pays qui a envie de réussir. Et ils ont une jeunesse qui est éduquée de manière géniale. C'est-à-dire, ils sont motivés, ils ont tous envie de lire, ils ont envie d'apprendre, et ils ont envie de comprendre le monde. Et il y a un intérêt des Coréens pour la France, qui est énorme, alors que je pense qu'il y a un intérêt des Français pour la Corée, qui est très réduit, ça serait vu au barbecue coréen. Et j'ai découvert un pays de gens qui ont envie d'être dans le futur, et qui ont le regard vraiment tourné vers le futur, alors que justement, quand je rentre en France, j'ai plutôt l'impression qu'on vit avec notre passé prestigieux, et qu'on a perdu, on a renoncé au combat du futur. Donc c'est assez amusant qu'un Français leur donne encore plus envie d'aller dans le futur. Et puis ils sont très gentils. C'est pas très gentil, c'est un pays où les gens sont motivés pour que les choses aillent bien. Voilà. Et je crois qu'on a des leçons à prendre.
Et donc vous leur faites régulièrement des petits clins d'œil dans vos livres avec des personnages dont les noms au moins ont des consonances coréennes.
Oui, surtout, il faut savoir aussi une chose, c'est que la Corée n'a pas de matières premières, ils n'ont pas de pétrole, ils n'ont pas de charbon, ils n'ont pas... Donc, c'est que de la matière grise, c'est que de l'intelligence, et c'est la qualité de leurs écoles, de leurs universités, qui leur permettent d'avoir des boîtes comme Samsung, des boîtes comme Hyundai, mais toutes ces marques qui sont en train d'envahir notre marché français, c'est parce que c'est tout simplement des gens intelligents qui font des bons produits. Et la seule manière de répondre à ça, c'est de faire des produits encore meilleurs, avec des gens encore plus intelligents. Donc la solution, c'est l'école. Et on voit bien, ce que j'ai vu en Corée, c'est des super universités. Et j'espère qu'en France, on va avoir ça, des super universités qui forment des gens pour être les meilleurs.
On vous connaît comme romancier, Bernard Werber, mais ce qu'on a peut-être parfois tendance à oublier, c'est que vous avez aussi fait de la bande dessinée.
Non, vous dites perfect. Non, non, j'adore la culture. Moi, j'ai eu mon premier émerveillement avec Métal Hurlant. On va commencer plus en arrière. J'ai démarré avec Pif Gadget, après j'ai fait Pilote, et après Métal Hurlant. Mais Métal Hurlant, ça a été une révélation. Je me suis dit, tiens, enfin la bande dessinée pour adultes, et on arrive à faire de la vraie littérature et transmettre des vraies idées à travers un art qui a l'air considéré uniquement pour les enfants. Et la bande dessinée, ce n'est pas que Tintin et Astérix, c'est aussi Moebius, c'est aussi Arzac, et c'est aussi Mademoiselle Bottian, c'est ça ?
Isabelle Bottian, qui effectivement nous en revoit voilà. Dans ce studio.
Il y a toute une nouvelle, il y a de nouveaux dessinateurs qui sont en train actuellement de faire passer des idées à travers la bande dessinée, comme j'essaie d'en faire passer à travers la littérature.
Isabelle Bottian, qui est donc la scénariste de la série Havre, une BD de science-fiction, un triptyque dont le dernier tome vient de paraître chez Ankama avec des dessins d'Anne-Catherine Hoth. Alors Havre, Isabelle Bottian, ça se passe sur une terre ravagée par un cataclysme où il reste seulement une poignée d'humains qui continuent de survivre. C'est une bande dessinée avec un climat quand même très très oppressant.
Oui, assez, oui. C'est le genre du survival, donc qui est rarement très très oui, enfin très très gai forcément. Enfin, les circonstances font que tout est aplani, tout est remis à zéro, tout ce qui est système politique, système moral, système de valeurs, les priorités deviennent très terre à terre forcément. Et c'est quand même une humanité qui essaie de se reconstruire, donc qui va petit à petit devoir intégrer des questions peut-être un peu plus profondes que ses besoins terre à terre. Mais au début, forcément, les priorités changent instantanément parce que c'est un cataclysme instantané.
Donc c'est une histoire donc post-apocalyptique. Et les héros cherchent des survivants, bon, ce qui est assez courant dans ce genre de circonstances, si j'ose dire. Voilà, ils cherchent aussi les causes de la destruction du monde, en particulier donc dans ce troisième tome. Apocalypse en grec. Ça veut pas dire catastrophe, faut le rappeler. Oui. Ça veut dire dévoilement, révélation. Donc c'est une quête en fait.
Levée du voile.
Oui, j'ignorais ça. Je l'ai lu dans le livre de Bernard Werber que j'ai commencé à lire là. Je connaissais pas du tout la racine, mais effectivement, alors c'est une métaphore complètement involontaire vu que je connaissais pas cette étymologie.
Mais ça colle bien à la BD.
Mais ça colle complètement bien à la BD, oui, effectivement. Ouais.
Alors pourquoi chercher à savoir? Quand on est un survivant, est-ce que le premier objectif, c'est pas tout simplement de vivre et de continuer d'assurer la perpétuation de l'espèce?
Je pense que c'est humain, tout bête. Enfin, bon, en même temps, ils cherchent pas tous à savoir. Enfin, au final, ils cherchent tous, mais il y en a quand même au début qui, bon, s'ils l'apprennent, ils sont contents, mais ça les intéresse pas plus que ça. Enfin, le personnage qui lance l'action, qui est le nécromancien, c'est un gars très simple qui lui voudrait surtout survivre, regagner un semblant de vie humaine, sociale.
C'est un personnage assez naïf d'ailleurs.
C'est un personnage assez naïf, oui. Mais qui en même temps que je trouve extrêmement positif, même si voilà, il a aussi les faiblesses liées à cette naïveté. C'est quelqu'un qui a une grande intelligence, mais qui s'interdira souvent de juger parce que ça remet forcément trop de choses en question, y compris lui-même. Mais sinon, oui, pour revenir sur le besoin de savoir, je pense que c'est profondément humain. Donc après, moi, c'est peut-être parce que j'ai une formation scientifique à la base. Je sais pas, mais j'ai vraiment l'impression. Oui, qu'on a besoin d'avoir des réponses, que ce soit à travers la science, la religion, une idéologie quelconque, que c'est quelque chose pour la plupart des gens qui est fondamental et peut-être pas de manière extrêmement rationnelle, effectivement.
Oui, pour vous, Bernard Werber, savoir, comprendre, c'est un peu le moteur de votre vie.
Oui, je comprends.
Et en même temps, imaginez, parce que c'est pas du tout contradictoire.
Répondre à la question pourquoi, c'est aussi répondre à la question où on va. C'est-à-dire, si on sait d'où l'on vient, on va comprendre où on va aller. Je comprends donc que les personnages de Havre, voilà, que les personnages de Havre soient dans l'enquête de la compréhension du passé, parce que dès qu'ils auront compris le passé, ils vont déduire comment on va avancer.
C'est exactement troisième humanité.
Oui, oui, mais je crois que c'est le souci de toutes les personnes qui se posent des questions sur le futur. En fait, je crois que Madame Bottian et moi, si on écrit ces romans, c'est pour donner aux gens à réfléchir et se poser la question où on va. Que va-t-il arriver à nos enfants? C'est en ça que la science-fiction a quelque chose de positif, c'est qu'elle ne dit pas que il y a des dangers. Elle dit aussi, nous devons chercher des chemins lumineux pour passer à travers cette jungle qui est toutes ces horreurs qu'on nous annonce dans les actualités. Mais moi, je suis profondément optimiste. Je crois que les choses vont aller de mieux en mieux et que apocalypse, donc si ça veut dire révélation, levée du voile et révélation de la vérité, ça veut dire que nos enfants, eux, vont être en contact avec la vérité. Nous sommes avec l'illusion.
Vous êtes aussi optimiste, Isabelle Bottian ?
J'ai envie de l'être.
Oui. C'est plus difficile que pour Bernard, visiblement.
Oui, spontanément, je vous aurais dit non, je suis pas optimiste, mais en fait, c'est un peu facile parce que peut-être qu'on est aussi dans une situation où l'actualité est un peu sombre et tout, et c'est un peu aussi. Je trouve que c'est aussi facile de se laisser aller vers le pessimisme. Les êtres humains sont tous des salauds, sont tous des pourris, que de. Enfin, on peut pas non plus occulter les grandes facultés humaines, mais grands individus. Après, moi, je pense que l'issue dépendra surtout de ce que la société va favoriser. Est-ce qu'elle va favoriser ceux qui ont la plus grande gueule, ceux qui sont les plus charismatiques et qui sont pas forcément les plus intéressants, ou est-ce qu'ils vont vraiment chercher, sans aller forcément sur la définition un peu scolaire de l'élitisme, mais aller chercher des gens un peu sages, des gens qui sont un peu pragmatiques, des gens intelligents, des gens qui ont des savoirs, même qui sont pas forcément des savoirs intellectuels, des gens qui ont des idées, et est-ce que la société va être capable de se remettre en question, d'en mettre en question ses fondamentaux? Donc l'issue, pour moi, dépendra complètement de ça.
Alors, dans Havre, il y a deux personnages principaux, le nécromancien dont on parlait à l'instant, il y a aussi une sorcière qui est une empathe, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de détecter les émotions des autres. Dans le deuxième tome arrive aussi un troisième personnage important, un pistolero. Mais attention, puisque c'est pas vraiment une bande de copains, pas du tout, on s'aide, parce qu'il faut survivre, mais on n'est pas amis.
Non, ils sont pas amis, ils sont tombés un peu les uns sur les autres. Bon, la sorcière est une empathe, donc ça m'intéressait parce que quand on entend la notion d'empathie, quand les gens sont pas sympas, on leur dit toujours, tu pourrais avoir un peu d'empathie.
Exactement.
Donc, ce qui est vrai, l'empathie peut vraiment permettre de sympathiser, mais l'empathie.
Et là, vous prenez un petit peu le thème à rebours.
Bah oui, parce qu'à la base, l'empathie, c'est être capable de ressentir ce que ressentent les gens, et c'est la qualité des plus grands manipulateurs, selon moi. Donc après, l'empathie, on peut en faire des choses extrêmement positives, mais on peut aussi en faire des choses horribles, ce qu'elle fait souvent.
Alors on va entendre justement un extrait d'un dialogue de la BD entre le nécromancien et l'empathe. On est à peu près aux deux tiers du tome 3. La jeune femme regarde le chien du nécromancien et l'interroge.
Pourquoi est-ce que vous l'avez gardé après avoir rencontré tout le monde ?
Je ne sais pas, c'est mon chien, c'est tout.
Ça n'a pas comblé votre manque, hein ?
Quoi ?
Les gens, ils n'ont pas été à la hauteur de vos attentes. Vous savez que vous ne serez jamais heureux ? Vous êtes en quête d'un idéal, et si vous vous terriez dans votre ville, c'est parce que vous saviez que vous ne le trouveriez pas. Vous n'êtes pas capable de vous contenter d'un compromis, mais pas assez fort pour prétendre à autre chose. Je vous méprise, vous savez ?
Vous m'avez amené ici pour m'insulter ? C'est bien gentil, mais...
Vous êtes intolérant, un faible, qui refuse de juger par peur de l'être lui-même. Un intellectuel qui fait preuve d'indulgence pour la bêtise. Pourtant, vous avez des opinions, mais vous vous excusez de les exprimer. Vous avez la possibilité de faire de grandes choses, mais vous ne serez à jamais qu'un suiveur. Vous ne méritez pas vos qualités.
La petite scène jouée par Muriel Mahalouf et Renaud Amado pour Vous m'en direz des nouvelles. Isabelle Bottian, vivre avec une empathe, ça doit être un enfer, non ?
Ouais. surtout celle-là. Enfin, après, encore une fois, on n'est pas obligé de s'en servir de manière aussi perverse. Cela dit, ce qu'elle dit là, c'est, même si elle le dit de manière vraiment méchante, gratuite et violente, si j'ai écrit cette scène, c'est parce que je trouve qu'il y a vraiment un fond de vrai. Moi, j'ai un vrai souci avec cette espèce de peur du jugement qu'il y a dans notre société actuelle. Juger, c'est pas condamner. Juger, c'est pas être intolérant. C'est avoir une opinion, en admettre la subjectivité peut-être, mais avoir une opinion étayée. Le jugement, c'est ce qui va nous permettre d'avancer, de faire évoluer peut-être les principes moraux qu'on nous a un peu inculqués comme ça, sans trop savoir d'où ça vient, de nous adapter, comme on parlait d'adaptation. Le jugement, c'est une chose positive. Le problème, c'est que nous, on en a une... on en a une peur bleue, et je vois effectivement, bon, enfin, la, enfin, en France, on a, enfin, dans l'histoire de l'art français, on a quand même un côté un petit peu intello, voire intellectualiste, et je trouve ça dommage de déployer toutes ces qualités intellectuelles pour beaucoup parler, beaucoup faire de théorie, ce qui est très bien la théorie, mais pas oser franchir le pas et dire voilà mon opinion. C'est pas si elle vous déplaît, c'est pas pour ça que je vous insulte, mais voilà à partir de quoi on pourra avancer.
Eh ben, Norbert, vous avez plutôt tendance à vous méfier du jugement.
Non. J'écoutais ce qu'elle disait. Je me disais, il y a un problème. L'empathie peut être, en effet, être une manière de manipuler les autres. Mais il y a pire, c'est l'absence d'empathie. C'est-à-dire que quand quelqu'un souffre à côté de vous et que vous en foutez complètement, ça, c'est une catastrophe. C'est d'ailleurs, c'est ce qui définit l'être humain, c'est qu'il perçoit la douleur des autres. Mais
c'est de la sociopathie.
Là, oui. Voilà, la sociopathie. Je crois que c'est dans le film Blade Runner, inspiré de Philip K. Dick, dans lequel on montre qu'un robot qui est capable d'empathie, donc de percevoir la douleur des autres, quelque part mérite le titre d'être humain. Et un être humain qui ne perçoit pas ou qui s'en fout complètement de la douleur des autres, à ce moment-là, devrait perdre le titre d'être humain. Et je crois que c'est un débat fondamental. Et moi, j'aime beaucoup la bande dessinée Le Havre, parce que je trouve surtout qu'il y a une vision très cinématographique. Ça va très... C'est fait de manière très visuelle. Et vous avez scanné plein de problèmes qui sont des problèmes moraux, éthiques, des problèmes psychologiques, à côté des problèmes de survie, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire ne pas rester juste aussi que dans l'action, mais voir qu'est-ce qui se passe dans la tête au moment où on est juste en processus de survie.
Isabelle Bottian, les questions éthiques précisément, vous posez des questions ou vous apportez des réponses,
je pose des questions et parfois je donne un point de vue. Alors moi, c'est un truc qui m'intéresse justement avec la SF. J'ai pas forcément une grosse culture SF à la base, mais si ce qui m'intéresse, c'est que ça va permettre d'amener un certain recul sur les choses, et un recul qui sera pas forcément de distanciation intellectuelle comme pourrait l'être, ou poétique comme pourrait l'être certains recours à la métaphore. On peut vraiment rester sur les points de vue humains, le fondamental de ce qui fait ou du bien ou non à l'être humain, en se débarrassant, si on le souhaite, de certaines idéologies, d'un certain passé historique. C'est valable pour toute la littérature de fantastique, d'ailleurs, enfin fantastique, fantasy, SF. Et moi, c'est ça qui m'intéressait, c'est aussi de faire table rase de ça pour parler de l'être humain, me focaliser sur les fondamentaux et essayer de sortir de ça. Et
extrait du nouvel album de John Cale, Shifty Adventures in Nookiewood.
Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet.
Pour nous faire partager vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux.
Bernard Werber, sans se gargariser de grands mots, est-ce que la science-fiction, au fond, c'est pas une manière d'inventer un nouvel humanisme ?
Oui. Voilà, je me gargarise pas de grands mots, je vous dis oui. Je crois que c'est en tout cas une manière de réfléchir à qui nous sommes autrement. Et je pense que des livres comme par exemple La planète des singes ont plus amené en effet à la philosophie et à l'humanisme que bien des traités universitaires.
Isabelle Bottians ?
Bah complètement, j'adhère complètement avec ça. Enfin, je trouve qu'on a un peu tendance des fois à mettre, enfin en tout cas en situation un peu, je voulais pas le dire le terme crise parce qu'il m'énerve, il est trop pas la mode, mais bon, disons en situation de crise quand même, on a un peu tendance à mettre la culture un peu de côté comme si c'était moins important que la philosophie, la politique et tout ça. Mais pour moi, les grands artistes, les grands scientifiques, c'est ceux qui vont donner les bases, les connaissances et les grandes idées qui vont permettre justement après aux autres de faire des choses pratiques. Donc c'est les fondamentaux et le socle le plus important pour moi.
Merci Isabelle Bottian, les trois tomes de Havre avec des dessins signés Hoth, c'est aux éditions Ankama. Bernard Werber, est-ce que vous aimeriez voir dans la réalité ce que vous imaginez dans vos livres ?
Oui. Oui, j'aimerais voir des petits humains de 17 cm. D'ailleurs, c'est marrant, quand j'étais petit, je devais être au lycée, on m'avait demandé qu'est-ce que je veux pour la Noël. Et j'avais dit, je voudrais des petits humains avec lesquels je puisse jouer et qui soient mes amis. C'est-à-dire pas des jouets, pas des petits soldats. Et je crois que finalement, bon, bien des années plus tard, je l'ai transformé en roman. C'est une idée inventée. J'aimerais réellement inventer et vivre avec mes personnages.
Alors, c'est précisément ce qui arrive à l'écrivain qui est au cœur d'un film qui sort demain en France. C'est le film qui s'intitule Elle s'appelle Ruby. C'est le nouveau film des réalisateurs Jonathan Dayton et Valérie Faris, qui ont déjà fait un tabac, on s'en souvient, il y a 6 ans, avec Little Miss Sunshine. Et cette fois, c'est une comédie romantique qui a de quoi surprendre. Sophie Torlotin.
Vous m'en direz des nouvelles !
Ruby Sparks, 26 years old.
Ruby, c'est elle. Une jeune femme fantasque qui débarque un jour dans la vie et le cœur de Calvin, auteur d'un best-seller à 20 ans et qui vit depuis reclus dans sa villa de Los Angeles. Paul Dano, alias Calvin.
Son père vient de mourir. Il a eu une histoire d'amour avec une fille insignifiante, son frère et son seul ami. Il a connu un grand succès avec son premier livre, mais il n'a pas écrit depuis. Il a l'angoisse de la page blanche. Je me suis servi de ces éléments pour imaginer tout le passé de mon personnage. Je me suis inspiré aussi de l'écrivain reclus Salinger. J'ai lu la correspondance de John Steinbeck. J'ai lu aussi beaucoup d'articles sur certains romanciers contemporains pour savoir comment ils étaient perçus et ce que l'on disait d'eux.
Perceived and written about. Sur les conseils de son psychiatre et pour débloquer son écriture, Calvin décrit sa femme idéale, à tel point qu'un jour, elle apparaît comme par miracle dans sa cuisine. La scénariste Zoé Kazan, qui joue également le rôle de Ruby, revisite le mythe antique de Pygmalion, l'histoire de l'artiste qui donne vie à sa créature.
Many male writers have taken on that myth.
Beaucoup d'écrivains hommes se sont emparés de ce mythe, mais là, je pense que le fait que je sois une femme change la perspective. Pour moi, ce film est plus largement une métaphore sur les rapports amoureux et sur la façon dont on veut que l'autre se conforme à l'idéal que l'on a. Beaucoup de femmes se sont enfermées dans une image mise sur un piédestal. Peut-être que les hommes ne comprennent pas et que c'est cela que je voulais montrer.
Car l'écrivain Calvin peut à loisir modifier les caractéristiques de son personnage et constater immédiatement les changements.
To me, it was very clear, you know, that she came to be because he needed her so much.
Pour moi, c'est très clair qu'elle apparaît parce qu'il a besoin d'elle. Calvin est solitaire. Au début du film, il cherche désespérément l'amour. Elle débarque dans sa vie comme une étoile filante. Ce n'est pas comme s'il avait cherché à la fabriquer. Je trouve le mystère plus intéressant que les explications magiques.
Magic fairy, you know.
Elle s'appelle Ruby, penche donc plutôt du côté de la comédie romantique, sensible et drôle. C'est pourquoi Paul Dano et Zoé Kazan, en couple à la scène comme à la ville, ont fait appel aux réalisateurs Valérie Faris et Jonathan Dayton, qu'ils ont connus sur le tournage de Little Miss Sunshine, pour mettre en scène cette histoire. Paul Dano.
Nous voulions que le film soit drôle et magique, mais aussi qu'il ait du fond, afin que les éléments fantastiques ne prennent pas le dessus. Jonathan Dayton et Valérie Faris étaient les seuls qui pouvaient atteindre cet équilibre. C'est ce qu'ils avaient réussi avec Little Miss Sunshine, même si ce film-ci est différent.
Avec un clin d'œil au film de la Nouvelle Vague et à la culture française.
Malgré les jours de pluie, malgré les nuages qui s'amusent à me cacher les rayons du soleil, je vois toujours un coin de ciel bleu, aussi bleu.
Vardan pour conclure ce reportage de Sophie Torletin. Il est là, toujours avec nous, Bernard Werber, pour Troisième Humanité chez Albin Michel. La Nouvelle Vague, c'est une référence pour vous ?
Non, pas du tout.
Pas du tout. Absolument pas sensible.
Pas du tout. Ah non, pour moi, le cinéma, c'est Blade Runner, c'est La Guerre des Étoiles, c'est 2001 de l'espace. Je suis vraiment très tourné vers la science-fiction et les effets visuels. Et j'attends du cinéma un grand spectacle et plein d'idées. Et les gens qui se posent des problèmes sur leur nombril, au bout d'un moment, j'ai juste envie de bâiller. Quoi.
Par contre, Little Miss Sunshine, vous avez
aimé. Oui, j'adore. La performance de l'actrice, la petite actrice, je pense qu'elle ira très loin, est extraordinaire. C'est souvent une personne qui porte à bout de bras tout le film. Et là, c'est une gamine, c'est fabuleux.
Bernard Werber, le président Drouin, dit dans Troisième Humanité, avoir raison trop tôt est pire d'avoir tort. C'est aussi votre avis ?
Ah oui, j'en suis persuadé. Et d'ailleurs, quand j'ai sorti l'État à Tenote, parler de la mort alors que les gens considéraient que c'était un sujet tabou, c'était beaucoup trop tôt. Et c'est un de mes livres qui a connu la répercussion la plus faible. Et bien plus tard, peut-être 10 ans plus tard, les gens ont découvert ce livre. Donc ça veut dire que même si on sort une idée trop tôt, elle ne peut pas être intégrée. Et maintenant, je vais voir avec Troisième Humanité, est-ce que ça arrive au bon moment. Mais le devoir d'un artiste est d'avoir raison trop tôt. Sinon, c'est le contraire, c'est d'être juste à la mode ou être dans le temps et raconter la même chose que les autres.
Merci Bernard Werber. Troisième Humanité, c'est chez Albin Michel. C'est pour quand le tome 2 ?
Ah, j'espère mars. Moi, je l'ai écrit. Maintenant, c'est mon éditeur qui va décider.
C'est déjà fait.
Je l'ai rendu hier, je vais vous dire. Donc, la suite. Mais le premier peut se lire indépendamment. Il n'y a pas besoin de lire le 2. Il est déjà complet comme ça.
Oui, sauf qu'à la fin, quand même, on a très envie de lire le 2.
Il y a un petit appel. Hein, ouais, si vous en voulez un peu plus, il y en aura un peu plus. Voilà.
Merci beaucoup, Bernard Werber. Demain, voyage en Afrique et dans les contes africains avec le réalisateur Michel Oslo pour le troisième film Kirikou. Vous m'en direz des nouvelles.